19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bienvenue sur Beurre FM. Et oui, il est 19h pétante et c'est l'heure de Time Sport en live du lundi au vendredi. On le rappelle à son habitude avec toute l'équipe, les consultants, téléconsultants de Time Sport, votre quotidien sportif sur l'antenne de Beurre FM. Au menu de cette émission, on se mardi 19 janvier 2021. On verra Milik, enfin bon attaquant pour l'Olympique de Marseille. Et oui, le club de cette fameuse cité phocéenne, le Real, va rafler peut-être la mise avec Alaba. Et on reviendra aussi sur Milan qui se renforce avec Mandzukic, comme le rappelait hier notre consultant Achille. Il était dans les tribunes, et oui, dans les tribunes de ce fameux stade du côté de Cagliari. Saint-Etienne demande à reporter le derby face à Lyon. Ça, c'est chaud là aussi. Les clubs amateurs qui sont autorisés par notre cher gouvernement à reprendre les entraînements. On parlera aussi de la fameuse chronique littéraire de Toto Bellozzo, sans oublier la page NBA. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Vous n'oubliez pas de bien réagir au 01 53 48 3000 et aussi sur la Twittosphère avec Farid Rouas, notre CM. Mais pour m'accompagner ce soir, je serai en compagnie d'Alison Nkunku. Comment ça va, Alison?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Un plaisir d'avoir une consultante ce soir avec nous. Viknesh est de la partie. Comment ça va, Viknesh?
Salut Bilal, salut tout le monde, ça va et toi?
Ça va très très bien. On a Steve Vidière encore avec nous ce soir avant
bonsoir
de nous quitter. Comment ça va, Steve?
Bonsoir à tous.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Ah bah super sympa. Toto Bellozzo est là.
Salut Bilal.
Ça va bien?
Bah écoute, ça va.
Ouais.
Aujourd'hui, on va voyager dans les méandres de l'âme d'un joueur très connu, Zinedine Zidane.
Lui, il le connaît très très bien, c'est Yacine Bouhali. Comment ça va, Yacine? Moi, je le connais pas, Zizou.
Il
toi,
le
tu le connais?
Trop, presque.
Ouais, c'est le connaît ça trop. Ouais, son pain kabyle, il le connaît aussi. Ouais. Il peut te donner même la recette du pain kabyle que sa maman lui fait tant. C'est ça.
Allez Yacine,
on attend ça.
Ouais, il est chez Yacine, voilà.
Ça résume tout.
Voilà. Vous pouvez le retrouver.
On a un bout de Zidane.
On a la même touche de balle.
Aïe, aïe, aïe. Ça, ça promet. Que dire.
Une vidéo bientôt, peut-être.
Il a le même crochet aussi que notre réalisateur qui est Yanis. Allez, c'est parti. On va s'attarder sur cette fameuse page, large page sur le foot mercato de cet hiver, justement.
Time Sport, le ras-le-bol.
Ouais, pour certains, faut le laisser du côté de Naples. Pour d'autres, il faudrait le ramener du côté de la Canebière parce qu'il n'y a pas de buteur, il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Les joueurs ont été repris tout de même par un certain héros, le président de l'Olympique de Marseille. Mais aussi, pour d'autres, on ne sait plus ce qui se passe du côté de la Canebière. Les joueurs, l'effectif, Alisson, ça fait peur d'une certaine façon.
Non, ça fait pas peur. C'est plutôt une bonne chose, je pense, pour l'Olympique de Marseille, d'avoir enfin ce fameux buteur qu'on attend après qu'on ait parlé de Luis Enrique, qui jusqu'à présent n'a pas fait ses preuves, même
Diego
si
Costa aussi.
Il reste encore jeune. Diego Costa qui a été refusé par l'Olympique de Marseille, paraît-il. C'est ce qui se dit. C'est pour ça que je rajoute le paraît-il. Et Milik, c'est quand même un attaquant du Napoli, même si effectivement elle a été mise de côté par les dirigeants depuis le mois d'août. Si je me trompe pas, parce qu'il n'a pas voulu être transféré l'été dernier, mais ça reste quand même un très bon joueur. C'est à peu près 48 buts, je crois, sur 100, un peu plus de 120 matchs. C'est un attaquant qui sortirait d'une grande équipe européenne. C'est toujours le bienvenu à Marseille quand on sait à peu près ce qui se passe en ce moment.
Ouais, Toto Bellozzo.
Bah écoute, oui.
Ça fait toujours parler Marseille.
Bah écoute, moi je pense que c'est une demi bonne nouvelle.
Ouais, pourquoi?
Parce que on a enfin un joueur qui, dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, d'un point de vue offensif, va pouvoir enfin peser sur les défenses adverses. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours trouvé ça très très léger. Maintenant, là où je me pose des questions, quand je dis c'est à moi une demi-bonne nouvelle, c'est un peu comme si on mettait du piment dans une soupe un petit peu fade. Parce que cette équipe de l'Olympique de Marseille, très honnêtement, et on le voit à travers le coup de gueule de Villas-Boas, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas d'âme de combattant. Alors c'est bien de ramener un Milik qui vient de Naples. On sait que c'est un peu voilà ce genre de club où il y a une forme de grinta, une forme d'envie d'aller de l'avant, de pouvoir marquer, de pouvoir être présent, d'imprimer une présence sur le terrain. Et là où je me pose des questions, c'est est-ce que Milik va réussir à déteindre sur l'effectif de l'Olympique de Marseille qui n'a pas cette âme de combattant, ou si finalement Milik va se fondre dans cet état d'esprit qui est peut-être un peu trop présent sur le club de la Canebière.
Justement, ambiance un peu résultat en Berne, Yacine, et l'ambiance est tendue du côté de Marseille. Ça, faut le rappeler. Hein.
Ben oui, quand on perd contre Nîmes.
Ouais, les Nîmois, c'est ça.
Là, j'entends Milik. Et
ouais.
Milik, déjà, ça fait combien de mois il n'a pas joué ?
Depuis août.
Ouais. Ça fait longtemps, Nîmois.
Marseille a besoin.
Ouais, on est en janvier.
A besoin d'un attaquant qui est opérationnel tout de suite.
Tout de suite, exactement.
Alors, il faut attendre encore le mois d'août prochain pour que Milik soit en forme.
Bah, c'est faux, ça, Alisson. Oui, avec Neige.
Comme tu l'avais dit au départ, quand tu disais qu'il y avait beaucoup de monde qui ne voulait pas le voir venir à Marseille.
Ouais, les anciens de l'effectif, peut-être.
Peut-être, non, mais
la concurrence.
Bon, après, moi, Marseille, je n'y crois plus. Quand on,
ouais.
Quand Toto, il disait que Villas-Boas se plaignait de la morosité de son club ou de son effectif, mais c'est la faute à qui ? C'est lui le premier responsable. C'est non, le club, il est dans cette situation.
C'est la direction aussi.
La direction, selon Vitesse.
C'est lui qui gère l'effectif, c'est lui qui recrute, c'est lui qui a recruté, c'est lui qui a tout fait ces deux dernières saisons. Ben c'est Marseille dans cet état, elle se fait coiffer sur le poteau par Nîmes chez elle. Je pense qu'aujourd'hui
Yassine,
elle est malade.
On a un coach autour de la table qui pourrait.
Justement, oui, Steve.
Je pense qu'il va pouvoir.
La personne de Steve.
Ouais, peut-être les contredire. Que moi je suis pas.
Ah ben oui. Voilà. Et le président, il est coach. Yassine. Mais non, quand même.
Ok.
Ne prends pas des pincettes avec lui, non.
Excuse-moi.
Capitaine.
Non, mais en tout cas, ce que je signe
aujourd'hui, juste pour finir, la situation à Marseille, le premier responsable, c'est Villas-Boas.
Ah, t'es dur.
Plus, non. Moi, ce que je voulais te souligner, Yacine, et
il est sévère avec
c'est
le portugais.
C'est pas pour te dire que t'as pas une âme de coach ou que t'es pas coach. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, un coach veut transmettre des valeurs à son groupe, et c'est pas toujours évident. Le groupe n'est pas toujours réceptif. Les gens qu'on a en face de soi sont pas toujours dans la mesure de d'entendre ce que le coach a envie de jouer.
C'est
en
la faute au coach.
Et bah, au bout d'un moment, ça devient la faute des joueurs quand le coach décide les bonnes valeurs.
Il a quand même essayé, Villas-Boas, d'insuffler quelque chose.
Il a réussi.
Marseille quand même finit avec la deuxième place de Ligue 1. Il a fait avec ce qu'il pouvait.
Son discours ne marche plus aujourd'hui.
Non, mais il a fait ce qu'il pouvait.
Alors,
surtout avec les joueurs. Son discours a été
pas. Alors, on va écouter Steve.
Il n'est pas dans la continuité. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur.
Il a pas un effectif de folie.
Après, voilà. Après, avec les joueurs qu'il a, c'est vrai qu'on peut pas non plus s'attendre à avoir beaucoup plus. Après, pour revenir sur le transfert de Milik. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Alors, comme a dit Yacine, on aurait espéré avoir un attaquant qui soit prêt de suite. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Après, voilà, il a 26 ans, il est jeune.
Ouais.
Il a un beau sur le comment dire
sur le bon CV.
Voilà, un bon CV. Après, il s'était blessé, je crois, il a eu 2016-2017. Il avait deux blessures au ligament. Il a su revenir.
Ouais, exactement. Ouais.
Après, voilà, c'est un attaquant qui va pas claquer 30 buts, mais ça va mettre une dizaine de buts.
Marseille espère en tout cas, Steve. Hein.
Ouais, alors après, il a un bon profil, il est assez complet. Il a gaucher, très bon sur les coups francs. C'est un attaquant très très mobile. Après quand tu disais d'avoir un attaquant vraiment avec la grinta, bah malheureusement il y a eu Benedetto qui vient du football argentin, qui est argentin. On aurait pu dire qu'il avait le tempérament pour jouer à Marseille. Malheureusement c'est pas le cas. Lui, Milik, qui vient d'un championnat Italie, championnat majeur. Championnat argentin, même si le championnat de France il est actuellement.
Mais il vient d'un championnat où il joue pas.
Oui, surtout c'est ça,
Juste
sur le papier, je pense qu'il faudra attendre un petit peu, mais comme tu disais, c'est Marseille, ce qu'il leur fallait, c'est un attaquant qui soit prêt de suite, quoi.
L'FC Creil nous écoute ce soir avec aussi un petit clin d'œil à Saden. Viknesh, concernant l'Olympique de Marseille et la réaction de Yacine.
Après, c'est un bon joueur, c'est intéressant de faire le transfert parce qu'ils ont l'opportunité, donc il faut le faire. Mais après, moi, je pense que c'est une bonne idée pour Marseille non plus, parce que, comme ça a été dit précédemment, depuis qu'il a signé au Napoli, Milik, il n'a pas fait une saison complète non plus. Donc ça, c'est à noter. Après, il a fait une bonne saison où il est en duel avec Mertens, il a marqué une quinzaine de buts, si je ne me trompe pas. Et après, là, Marseille, c'est bien d'acheter un attaquant de pointe et tout. Mais en fait, le problème, il est plus profond. C'est au niveau des joueurs. Parce qu'en défense, au milieu, en attaque, les joueurs, ils sont plus performants. C'est bien d'avoir un attaquant de pointe, mais il faut que le joueur ait des ballons. Et après, si les autres autour de lui, ils sont pas performants, parce que Thauvin, Payet, Radonjić, Cuisance, etc., ils sont mauvais. Donc, c'est pas l'apport de Milik qui va les transformer. Donc moi je veux bien acheter un attaquant, le grand attaquant, le fameux grand attaquant qu'on en parle depuis des années, c'est peut-être Milik. Mais si le collectif autour de lui n'est pas performant, il va rien faire.
Une réaction, vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. ça peut devenir un Strootman bis. Ça, c'est Mouad qui nous le dit.
Oui, exactement.
Ah, voilà, c'est Mouad, un auditeur.
Mais il a raison, parce que juste pour terminer.
Strootman, ouais. Je pense qu'il est, quand il est arrivé à Marseille, alors, il est arrivé en forme.
Ouais,
il était déjà
en forme.
Ouais, mais c'est comprends parce que Strootman, il a été blessé aussi. Et après, il était plus performant. Il est venu à Marseille, bon, on a vu ce que ça donnait. Et là, Milik, il a été blessé, il a pas vraiment joué au Napoli. Et là, il va à Marseille, ça peut faire la même chose. Sauf le seul avantage qu'a Milik, il est plus jeune. Donc, il peut se refaire la cerise, malgré ouais. tout.
Sportivement, là où ça peut être intéressant, alors, c'est la doublette quand même avec Benedetto.
Si mais est-ce qu'il va le faire, ça? Est-ce qu'il va le faire?
Ça peut être intéressant, je pense.
Est-ce qu'il va le faire? Parce que chaque fois, on parle de la doublette avec Germain, et on le voit très rarement. Benedetto. Et Villas-Boas, il aime jouer avec un seul attaquant de pointe. Donc, est-ce qu'il va vraiment mettre Milik et Benedetto?
On verra en tout cas ce feuilleton avec l'Olympique de Marseille. On va s'attarder sur la Liga avec le Real Madrid de Zinedine Zidane. Et oui, le Bayern de Munich, Steve Alisson confirme le départ donc d'Alaba.
Oui, Alaba qui n'a pas prolongé. Hein. Il devait renégocier son contrat avec le Bern. Il l'a pas, il l'a pas fait. Moi, j'aime beaucoup le profil de David Alaba. C'est un joueur défenseur central de base et ensuite qui s'est poussé sur un côté exactement au Bayern. C'est un joueur assez complet. Il est grand, il est bon de la tête, il est bon balle au pied. Même si il a connu une pente un peu descendante, pour moi, ça reste un très 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 bon éventuellement une recrue en. Je sais pas si Ramos, en tout cas, ne prolonge pas et qu'il s'en va vers d'autres horizons. C'est un
il a,
très.
Il a quel âge là-bas, Alisson?
28.
28 ans.
Ouais, il a 28 ans là.
28 ans. Moi, je pense que c'est une bonne chose.
C'est bien.
Ah, oui. Pour remplacer Ramos.
C'est un renfort de luxe et je sais qu'apparemment le transfert a été fait sous condition parce que Ramos n'a pas encore.
C'est ça. On s'est prolongé.
N'a pas encore prolongé et comme là, bah, en ce moment, il joue dans la défense centrale. Ça serait pour éventuellement le remplacer en cas de départ de Ramos. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est polyvalent, il peut jouer sur un côté, je sais qu'il a même joué au milieu de terrain.
Bon, l'équipe d'Autriche, il joue au milieu de terrain.
Ouais, c'est pour ça, voilà. C'est ouais. ça. Donc c'est pour ça qu'il peut combler plusieurs postes. Donc moi, je trouve que c'est un renfort de luxe, ouais.
Ah bah clairement c'est
quand oui, Toto.
C'est une bonne recrue. Après,
à là-bas au Real.
Je pense que voilà, il y a la carte Ramos. Sur laquelle le Real Madrid
au Paris Saint-Germain
se pose encore des questions. Il a pas encore prolongé son contrat, donc si Ramos part, bah, ils auront cette possibilité d'avoir un Alaba dans le cœur de la défense. Maintenant, moi, si Ramos ne part pas, de toute façon, je pense qu'il prendra la place de Varane, parce que Varane, ces derniers temps, je le trouve vraiment très largement psychologiquement et sportivement en dessous de ce qu'il a su montrer jusqu'à aujourd'hui. Il a un peu ce syndrome post Ballon d'Or. Tous les joueurs français qui ont été promis au Ballon d'Or et qui n'ont pas eu, enfin, en tout cas qui ont été largement en dessous de ce qu'ils attendaient.
Quand on est premier, on est premier, on l'a.
Voilà, le statut, la statue.
J'ai compris.
Enfin, Varane, c'était pas un prétendant au Ballon d'Or.
Oui.
Mais il a été. Varane a dû sucer à se faire, hein.
Voilà,
non, mais on l'a même pas là qui nous le dit.
Il était septième plutôt que d'être sur le podium.
Ouais, Toto.
Je pense que.
Septième, il a été favorisé par beaucoup de monde.
Il viendra, quoi qu'il arrive, remplacer l'un des deux. Et aussi, bah voilà, il a cette possibilité de pouvoir jouer sur le côté gauche, qui pour moi, le côté gauche du Real Madrid, depuis le déclin de Marcelo, a vraiment du mal. Alors, j'enlève rien à Mendy, qui pour moi, un bon joueur.
Tout passe par là.
Et largement en dessous de
ce moment. Ah
ouais, bah ouais. Tout passe par le côté gauche.
Du Real. Ouais, bien sûr. Enfin, je pense, et justement, à là-bas, bah, si on arrive à garder Ramos, Varane, et qu'il y a un problème côté gauche, on pourra faire glisser toujours ce joueur-là.
Ouais, c'est une entécoute concernant le Real Madrid.
Tant que Zidane, il est là, il bougera pas.
C'est ça.
Ouais. C'est son choix. Et Ramos, vous croyez que Ramos, il va, c'est quelqu'un qui est fou, c'est un joueur emblématique du Real de Madrid.
Ramos va rester avec Alaba, ça serait pas mal.
Paris lui donne la
très
lourd. Il irait pas à Paris, il va rester quand même.
Ouais, à Madrid.
C'est normal, à Madrid,
c'est un monument.
Alisson, elle est d'accord.
Il va pas perdre du jour au lendemain tout ce qu'il a construit au bout de 20 ans de carrière à Madrid. Pour venir à Paris pour faire quoi? Franchement, donc à un moment donné, il faut qu'on
arrête. Mais quoi, c'est beau Paris. Et c'est un grand club. Après, c'est un grand club. Après, non, mais arrête, moi je suis sérieux.
Tous les sites électroniques, tous les jours qui balancent Zidane, Viré, Benzema.
Ouais,
en Arabie Saoudite.
C'est vrai peut-être. Si Benzema est en Arabie Saoudite, il y avait le droit.
Marseille, Bilal Nedman.
Ah bah arrête. Boufalek. Arrête de parler de Boufalek.
Il n'y a pas de reste pour Boufalek.
Boufalek, c'est sympa. Boufalek.
Bah oui, l'international marseillais.
Ils attendent toujours. Boufalek, c'est
donc,
le club
Ramos,
peut-être.
Ramos va rester et Varane va rester.
Comme tu disais Zidane.
Et c'est
lui qui décide de partir.
C'est ça.
Et
c'est ça.
comme c'est tu ça. Disais vendredi. C'est,
mais t'inquiète pas, on va revenir sur Zidane. S'il te plaît, Steve.
Comme tu disais vendredi.
Laisse-moi le temps. On va revenir sur Zidane. Non, mais, ne t'inquiète même pas.
Ah, j'ai pas fini, Gérard.
Ouais. Ah, bah, mais non, là, terminé. Mais je n'ai plus le temps pour Zidane.
Il du Real pour gagner la Ligue des Champions et va remplacer Mendy sur le côté gauche.
Pour gagner la Ligue des Champions.
Viknesh, rapidement. Allez, Viknesh.
À la base, ça peut être un plus au Real. Après, à la base, il a été latéral gauche. Il a été le meilleur du monde. Dans l'axe, il est un des meilleurs du monde. Au milieu, quand il joue avec l'Autriche, il est un des meilleurs du monde. Donc, c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à tous les postes. Et au Real, ou à City, ou à Paris, où est-ce qu'il va? Au Real, probablement. Il va être titulaire de toute manière. À gauche, dans l'axe, au milieu, on va lui trouver une place. C'est un joueur, c'est un des premiers noms que tu mets sur, quand tu fais ton équipe de base. À là-bas, il doit jouer. Il est complet. Il est parfait, ce joueur.
Il peut jouer ensemble. Ils peuvent jouer ensemble avec comment il s'appelle, l'autre Brésilien du Real.
Qui
le milieu tournant du Real, milieu recul.
Casemiro.
Voilà, Casemiro.
Ouais, bien sûr.
Je pense qu'il va, il va être complémentaire.
Surtout qu'à Modric aussi, c'est la fin pour Modric aussi.
Parce que donc, la réforme de Valverde, depuis quelques temps, ça, c'est plus le même joueur. Modric, il est sur le déclin. Kroos, ça tourne un petit peu à. Comme un diesel. Ça dépend de la météo.
Ouais.
Voilà, donc à la base, moi je valide au Real.
Bien sûr.
Ah ben justement, à la base, toi tu l'as validé, ouais, du côté de Real Madrid. Milan se renforce donc avec Mandzukic. On avait eu l'info il y a pas mal de temps. Oui. Avec, j'ai dit Milan se renforce avec Mandzukic pour continuer à viser le titre. Justement, Alisson Toto Bellozzo, que dire sur ce magnifique joueur quand même? Qui le reste.
Mandzukic reste quand même un très grand attaquant, hein, même si l'âge avance, même s'il a 34 ans aujourd'hui, ça reste un attaquant qui a prouvé partout là où il est passé, même quand il était.
Ibrahimovic, il en a 40. Hein.
Mais c'est ce que je dis.
C'est le même profil.
Non, mais c'est ce que je dis. Même
c'est le
Milan
si AC. Hein.
Il a 34 ans. C'est-à-dire que ça reste toujours un profil très, très intéressant. C'était au Milan AC, c'était pas l'Inter.
Ouais, c'est le Milan.
Et on parlait justement d'Ibrahimovic. Ça serait pour suppléer Ibrahimovic. On l'a vu quand Ibra n'était pas là pour le Milan AC. Le Milan AC a perdu. Comme par hasard. Donc là, c'est un apport supplémentaire. Et le Milan, on connaît les objectifs, c'est remporter un Scudetto et se qualifier pour l'Europe l'année prochaine et revenir enfin, une fois pour toutes, au top de l'Europe. Donc pour moi, c'est une très, très, très bonne idée.
Après, lui, faire attention, pareil, il était au Qatar et il a fait que 7 matchs. Donc après, voilà, c'est voir aussi l'état de forme. Après, ouais, c'est un très bon joueur de complément.
On joue bien au football au Qatar, hein. Attention. Hein.
Oui, non, je dis pas ça. C'est juste qu'il a joué 7 matchs. Ah, et
oui,
c'est
là,
surtout que.
Mais
c'est aussi ça aurait pu être l'attaquant de Marseille. Malheureusement, il coûte trop cher.
C'est plus cher que Milik. Après, du coup, pour revenir sur Mandzukic, pour terminer sur lui, Mandzukic, je pense que c'est un apport au Milan parce que. Au Milan, il faut pas oublier qu'ils sont énormément de jeunes. Ils ont eu Ibra et Simon Kerr comme joueurs d'expérience. Donc Mandzukic, ça fera pas de mal. Il sera là pour apporter son expérience et il sera là pour suppléer Ibra. Donc même s'il a fait 7 matchs au Qatar, il est là pour jouer un peu. Il va pas jouer souvent. Il sera pas titulaire. Donc c'est bien. Il va prendre le temps. Il sera pas mis dans le grand bain tout de suite. Donc c'est bien. Je pense que c'est un joueur de complément. Il fera du bien.
Et pourquoi pas Ibra aussi.
C'est ça. Il faut le reposer. 40 ans, 33, 34 ans. Voilà. Ils vont tourner. C'est bien.
Ils vont jouer ensemble. Un peu
plus âgé.
Bah, bien sûr.
Oui. Moi, Toto Bellozzo avant la pause.
Je vais être un peu plus négatif.
Alors. Pourquoi ? Bah,
moi, je pense que le fait qu'un joueur comme Mandzukic, qui a quand même 34 ans, qui a un CV long comme le bras, et on va pas revenir sur la carrière qu'il
rapidement.
A eu, franchement, je trouve que ça dépeint bien la pauvreté d'attaquants qu'on a en Europe, de gros calibre.
Partout, hein.
Pour qu'un joueur de 34 ans arrive à l'Inter comme renfort, ça prouve bien que derrière, il y a vraiment un manque de joueurs. Et je trouve qu'au niveau offensif, des numéros 9, des attaquants, il y en a de moins en moins. Des bons attaquants de calibre international, on en a de moins en moins.
Et le fait que après, c'est le mercato d'hiver, il faut saisir une opportunité aussi. Je pense
mais on parle d'un joueur qui est au Qatar, qui a 34 ans et qui devrait justement terminer ses vieux jours, peut-être en MLS ou ailleurs, et pas dans et un club
aussi, hein.
De gros calibre. Hein. Quel Inter de Milan quoi qu'il arrive.
Ah ben, en tout cas, il y en a, ils sont un peu pessimistes. Il se fatiguera, Mandzukic. 7 matchs, 1 but. Il va se faire tordre en Serie A. Voilà, ben, ça, c'est Arthur qui nous le dit, qui nous écoute ce soir. On va faire une courte pause avant de revenir avec Alisson, Steve, Yacine, sans oublier Viknesh et Toto Bellozzo pour sa chronique littéraire et aussi pour parler de ce fameux derby entre Lyon et l'AS Saint-Etienne.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de notre fameux réalisateur, spécialiste aussi, lui, comme Vivien Boyebanga, de la NBA. Eh oui, hier c'était le Martin Luther King Day. On reviendra rapidement, c'est promis, mais place à la chronique littéraire de Toto Bellozzo.
Time Sport,
Eh oui, cette semaine, quel livre? C'est un livre assez... ouais, qui s'annonce à, c'est incroyable, quoi. Dans la tête de Zidane, aux éditions Nouveau Monde, écrit par Sabine Calegari. C'est bien ça?
Exactement, exactement, Bilal. Aujourd'hui, on va aborder cette chronique littéraire. Et j'espère que Yacine va pouvoir rester dans...
Ouais,
dans...
Steve et Viknesh aussi, hein.
Ouais, bien sûr, non, mais en tout cas, on va aborder le livre d'un personnage assez incroyable, sous un angle assez incroyable, parce que c'est inédit de voir un livre footballistique parler sous l'angle de la psychanalyse. Parce que justement, Sabine Calegari est psychanalyste. Et elle a décidé de nous faire, comme elle nous le raconte, une radiographie d'âme de Zinedine Zidane. Finalement, de nous faire découvrir quel est le personnage qui se cache derrière le joueur, derrière le parce que
Zidane
est quelqu'un d'assez énigmatique, mystérieux. Et on arrive
comme Yacine.
Ouais, un peu comme Yacine. Hein, parce que voilà, Zinedine Zidane,
on a mangé beaucoup de piquants. Ouais,
tu l'as fait intervenir. et donc justement, voilà. Donc la radiographie d'âme de Zinedine Zidane nous fait découvrir un homme qui a été qui est en proie à une dualité en lui, hein, qui est, elle nous parle de yin et de yang, hein, de bien et de mal, qui est ancré en lui, parce que voilà, c'est vraiment un personnage charismatique, plein d'aura. Et justement, il éclabousse très souvent de sa lumière à travers ses exploits sportifs. Ouais. Mais il a aussi des parts d'ombre. Et ce livre-là nous explique vraiment comment la mécanique psychologique de Zidane le fait agir. Et parmi les personnages qui l'ont, on va dire façonné, il y a avant tout son père Smaïl.
Ouais, son papa
Smaïl, avec qui il a entretenu une relation père-fils très, ouais, très saine, pleine d'amour, d'affection. Donc Zinedine Zidane n'a manqué de rien, mais où les mots manquaient énormément. Il n'y a pas eu de communication verbale entre Zidane et son père. C'était une communication non verbale, et ça se retrouve un petit peu dans le personnage.
Ouais.
Voilà, alors, de respect, et puis c'est finalement une façon d'agir, une façon de fonctionner.
Ouais.
Et c'est un peu comme ça que Zinedine Zidane a toujours fonctionné, a très peu communiqué verbalement, et nous a distillé ses paroles à travers ses exploits, sa gestuelle, sa façon de jouer, et sans trop parler. Même en tant qu'entraîneur, et aujourd'hui, même quand on regarde une conférence de presse de Zidane, Zidane parle très peu et dit l'essentiel, hein, comme le soulève Sabine Calegari.
Il va droit au but.
Exactement. Un autre personnage qui a façonné sa psychologie, son être, son âme, c'est un personnage central dans sa vie, c'est Véronique.
Sa femme.
Exactement, qu'il a rencontré très jeune et avec qui il a fondé un couple qui a été le berceau de ce qu'il a poussé à être le Zinedine Zidane grandiose, celui qui est, voilà, parce que un homme qui se sent bien dans sa vie, dans son être, et bah il arrive à faire de grandes choses. Et justement, à travers la relation qu'il a eue avec sa femme, qui a été quand même, sa femme s'est sacrifiée pour lui, hein. Quand je dis sacrifiée, elle était promise à une grande carrière de danseuse.
Ouais.
Elle a tout arrêté pour permettre à Zidane de devenir Zidane. Et voilà, ces deux personnages là Zinedine Zidane dit lui-même que sans eux, il est rien. En fait, sans Véronique Zidane et sans Smaïl Zidane, il n'y a pas de Zinedine Zidane.
Et justement, et la maman? Parce que la maman, Zidane, il tient fortement à sa maman. Alors, il le répète aussi.
La maman, je pense qu'elle joue un autre rôle qui est moins évident. Elle est beaucoup moins mise en avant dans le livre. Parce que, voilà, c'est un aspect... Sabine Calegari s'attarde vraiment sur les aspects psychologiques.
Bien sûr.
Et finalement, bon, la maman a joué un rôle dans la vie de Zidane, mais moins psychologique.
Et justement, le pain cabide, on n'en parle pas, parce que bon, dans le livre, on aurait pu en parler. Mais justement, non, plus sérieusement, parce qu'il aime beaucoup ça, Zidane. Mais concernant le coup de boule de Zidane,
de Zizou,
hein, face à Materazzi, en finale.
Bah, Sabine Calegari nous raconte dans ce livre comment cet événement qui est, je vais utiliser un mot peut-être dramatique, cet événement dramatique dans la carrière de Zidane, qui a été le dernier coup d'éclat de Zinedine Zidane sur un terrain de foot avec le maillot de l'équipe de France, le coup de tête de Zidane à Materazzi, et qui n'est pas finalement, selon elle, le fruit du hasard. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça sans aucune raison. Et cette raison-là, elle prend prend sa source et elle nous explique justement cette mécanique dans la rumeur à l'époque où il jouait à la Juventus, où il y avait une rumeur, hein, on dit bien une rumeur entre qui prêtait une liaison entre sa femme et Inzaghi.
Ouais.
Et finalement, voilà, ça a créé un trouble chez lui, un vrai problème chez lui qui s'est traduit le jour de la finale de Coupe du Monde en 2006, parce que ce jour-là était présent Inzaghi sur le banc, sa femme, ouais, Véronique sur le terrain. Il y avait aussi Nadia, à qui Zidane,
ouais,
voilà, il y avait eu aussi une rumeur de liaison avec Zidane. Et finalement, Sabine Caligari, je vais garder le mystère pour les lecteurs d'aller découvrir ce qui a déclenché à travers ce quatuor, hein, finalement, le coup de boule de Zidane à Materazzi, qui n'est pas innocent, hein, qui a été justement le déclencheur à travers une parole. Et justement, Sabine Caligari le décrit vraiment bien. Alors voilà, encore une fois, c'est vraiment un livre qui est assez spécial, parce que on n'a pas l'habitude d'avoir cette posture dans l'écriture d'un livre footballistique. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment une expérience. C'est une expérience très spéciale, mais très agréable à faire, de découvrir un personnage qu'on pense connaître énormément. Et finalement, on arrive à rentrer dans l'envers du décor de Zidane. Et je vais même, pour terminer, je trouve que le titre est bien choisi, parce qu'on parle de la tête de Zidane, dans la tête de Zidane.
Ouais.
Et Zidane, alors, il a fait des exploits avec ses pieds, mais c'est avec sa tête qu'il a écrit les plus grandes, belles et mauvaises lignes de sa vie. Les deux coups de tête en 98 qui ont fait la France championne du monde,
ouais,
et le coup de tête en 2006 qui a été la fin de sa carrière.
On le rappelle, le titre de ce livre, dans la tête de Zidane, aux éditions Albin Michel, écrit par Sabine Caligari. Peut-être des réactions avec Alison, Steve ou Viknesh, Yacine.
Bonjour, une question, j'ai pas encore lu le livre, Toto, ça m'a l'air très très intéressant. Alors il y a eu énormément de livres sur Zidane, on les a décortiqués de maintes et maintes fois, on l'a décortiqué le personnage, on a décortiqué le footballeur, mais est-ce que finalement on apprend, ou alors on a une vision vraiment différente de tout ce qui a été fait auparavant sur Zidane?
Alors oui, complètement. Et je pense que c'est même l'un des plus beaux livres sur Zidane. C'est parce que voilà, Zinedine Zidane, celui qui s'intéresse un minimum au football, il connaît sa carrière, il connaît le joueur, il sait de quoi il est capable.
Ouais.
Et là, finalement, on a vraiment une vision de l'intérieur de Zidane. Et on comprend comment ce champion-là fonctionne, avec ses hauts et ses bas. C'est pas simplement, voilà, c'est ni un livre à charge, ni un livre qui fait l'éloge de Zidane, bien que l'auteur, Sabine Caligari, a l'air d'être assez fan, mais elle est objective sur la vision de ce qu'il est et de ce qu'il développe.
Ça, c'est intéressant.
Et c'est pour ça que je trouve c'est l'un des plus beaux livres sur Zidane.
Yacine. Alors, on t'écoute.
Moi, je lui poserai la question à Sabine. Ouais. Est-ce qu'elle a rencontré Zidane pour écrire un livre sur lui?
Ah, bah, à mon avis, oui, je crois.
Elle l'a pas rencontré.
Elle l'a pas rencontré, selon toi.
Tous les gens qui ont écrit des livres sur Zidane l'ont pas rencontré.
Bon, alors moi, je peux
pour l'instant, en attendant que tu aies la réponse de Sabine Caligari directement. Justement, la psychanalyste, elle s'intéresse aux faits de Zidane. Et non pas le fait d'interroger Zidane, finalement, ne l'aidera pas à comprendre ce qu'il est de l'intérieur, puisqu'elle analyse ses faits et gestes, ses dires. Et c'est la traduction de ce qu'il pense.
Et ça veut dire que c'est vrai?
Bah, forcément, puisque
là, c'est complètement à côté.
Non, mais
le
c'est
personnage limite central dans la vie de Zidane, c'est sa maman Malika. C'est
ouais.
ni Véronique, ni son père. Le personnage.
C'est toi qui le dis.
Non, mais là, c'est toi qui le dis.
Okay. C'est Zidane qui le dit.
Ouais.
Le personnage central.
Peut-être c'est son jardin secret aussi.
C'est la maman Malika.
Il ne va pas trop dévoiler la
maman.
Ouais.
Non, mais là, t'es en train de balayer. Non, mais tu balayes. Trois ans de travail. Trois ans de travail de quelqu'un. D'un revers de la main, en disant
chacun
finalement.
Libre, des gens écrivent des centaines et des centaines.
Toi aussi, tu en écris, il n'y a pas de problème.
Et dans une société matriarcale comme l'Afrique du Nord, la maman, elle occupe un poste important dans le monde de
football. Mais personne ne t'a dit qu'il n'était pas important
sur
ce poste-là.
Sa maman, rien ne passe. Voilà, le personnage central de sa vie, c'est sa maman Malika.
Bon, bientôt un livre de Yacine sur Zidane. Tu vas remettre la lumière à la place.
Si je dois,
c'est incroyable. Si c'est énorme, c'est incroyable, Yacine.
Eh oui.
Je dois passer au moins un an avec lui.
Eh ben, ça. Ah ben, ça c'est Yacine.
J'ai pas la science infuse, je le connais pas, Zidane, donc je peux pas écrire.
En tout cas, Sabine Caligari a analysé 3 ans de faits et gestes.
Les instances du football, notre Yacine.
Ça n'engage pas quelqu'un d'autre.
Mais je pense pas qu'elle ait la prétention.
Je pense pas qu'elle a raison.
À aucun moment, elle a la prétention de. Non,
mais Yacine,
elle
n'a pas. Dans l'écriture du livre, Zidane, dans la tête de Zidane, de Sabine Caligari, à aucun moment Sabine Caligari prend la posture de dire une vérité quelconque. Elle analyse et donne sa version des choses. Et justement, c'est une version qui s'approche de la réalité. Maintenant, est-ce que c'est la réalité ou pas? Eh ben Zidane peut. Zidane sera mieux, sera plus à même de répondre.
Eh ouais. Eh ben tout comme Praline, notre auditeur qui a un jardin secret et qui le dévoilerait pas, pas pour le moment en tout cas. Voilà. Eh ben ça, c'est la dédicace faite. Viknesh, ça te fait sourire, mais pourquoi? Zidane, toi aussi.
Non, pour revenir sur le livre.
Ah ben quoi, tu vas en faire un aussi de livre? Ben voilà, avec Yacine, tu le fais. Il y a pas de problème.
Mais sinon, pour revenir sur le livre, après moi je trouve ça intéressant, une facette différente de voir Zidane. Après, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, si elle a raison ou pas. Après, dans la façon comment elle analyse le personnage avec la psychologie en se mettant dans sa tête, c'est intéressant parce que, comme l'a dit Toto précédemment, on connaît le joueur Zidane, tout le monde l'a vu, tout le monde sait comment il joue. Après, le fait d'expliquer pourquoi il joue comme ça, pourquoi il a cette culture, etc., tout le monde le sait, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a vu. Après, de le voir différemment dans la tête avec la psychologie, expliquer des gestes par des par de la psychanalyse, c'est intéressant aussi, c'est une autre façon, c'est notre facette, c'est notre vision, donc c'est intéressant de voir parce qu'elle est pas spécialiste de foot, enfin je sais pas si elle est spécialiste de foot, mine de rien, après c'est une façon différente de voir les choses, donc c'est intéressant.
On termine concernant Zinedine Zidane et ce magnifique livre de Sabine Caligari aux éditions Albin Michel. On va s'attarder sur le derby, et oui, rhodanien, qui opposera justement Lyon à Saint-Étienne.
Time Sport, la victoire.
Et devant composer avec un effectif amoindri, Alisson, à cause du Covid-19, Puel donc a demandé le report du derby tout en sachant que ça serait compliqué à obtenir. Eh oui, Steve.
Oui, forcément compliqué et on s'y attend forcément. On est dans une pandémie, ça peut toucher certaines équipes. Je comprends que Claude Puel soit dans cette situation-là, mais il faut faire avec, tout simplement.
Ouais, avec Nash. Bah après, ça arrive à grands pas en tout cas.
Avec, après, je comprends Claude Puel aussi parce que là, ce week-end, ils avaient pratiquement 10 joueurs qui n'étaient pas présents à cause du Covid et ils ont perdu. Donc du coup, ils n'ont pas performant. Donc contre Lyon, il faudrait qu'ils fassent jouer les U17 ou les U18. Donc je pense qu'il ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Donc Puel, il demande ça. Après, il y avait une règle par la LFP, il fallait avoir un tel nombre de joueurs disponibles. Donc il faut voir s'ils ont ce nombre de joueurs.
C'est 11.
S'ils l'ont pas,
c'est 11, ils sont 10. Après, il y a 4 joueurs qui reviennent, mais ils ont été en quarantaine, donc physiquement, ils vont pas être au top. Donc après, malheureusement, c'est un manque de chance, faudra faire avec.
Ouais, exactement. Ça tombe mal.
Il faut faire la psychanalyse de Claude Puel pour qu'il demande le report du match.
On va attendre un peu.
Il faut chaque fois, il faut la psychanalyse pour voir pourquoi la réaction d'un tel
Il va rester dessus.
Pourquoi cette décision à ce moment-là? Alors, il l'a pas prise il y a 15 jours.
Parce qu'il n'y avait pas les cas de Covid à ce moment-là.
Voilà. En tout cas, ça peut poser problème, façon, ça c'est sûr.
De toute façon, c'était les règles du jeu. Quand on a repris le championnat, on savait que on reprenait avec le Covid qui était toujours présent. Et il y a eu une norme, c'était plus de 11 joueurs, et on peut pas jouer le match. Là, ils sont à 10 joueurs, ils sont obligés de jouer. Et malheureusement, comme l'a dit Rudy Garcia en face, il a dit nous on sera 11, ils seront 11, et à partir de là, le match peut se jouer, quoi. Donc.
Justement, Amouma, Debouchy, Bouanga, je veux bien que l'effectif soit limité, mais c'est une sacrée perte quand même, sans compter qu'il n'y a aucun gardien de dispo. Oui. Alors justement, Yacine, tu dirais quoi si c'était Depay, Aouar et pas Keita?
C'est un auditeur qui nous pose cette fameuse question, et elle est assez pertinente.
Il pose la question, Garcia aussi, on va faire l'analyse de Garcia.
C'est pris pour Freud là maintenant.
À chaque décision qu'on doit prendre, il faut l'analyser. Puel est dans son droit parce qu'il y a des joueurs qui manquent. C'est à la majorité de ton effectif qui est absent. Déjà pour la beauté du derby Lyon-Saint-Étienne, ça serait bien que ça joue avec les effectifs au complet.
Ah, pour l'instant, il n'est pas dans son droit, parce que le droit
c'est 11 joueurs.
Il a raison de demander, mais est-ce que justement, si on veut analyser psychanalytique, si c'était le contraire, est-ce que lui aurait demandé quand même le report?
Est-ce qu'il aurait accepté?
Je pense pas.
Est-ce qu'il aurait accepté? Non.
Justement, personne n'aurait accepté.
Donc on a la LFP a établi un calendrier. Malheureusement, ça tombe sur lui, c'est la faute à pas de chance. Ouais. Mais il faut y aller, il faut jouer. C'est comme
surtout
ça.
Surtout un derby, peu importe la manière.
Ils sont encore plus beaux s'ils le remportent. Sait-on jamais.
Peknesh. Bah après, avant la pause avec Toto.
Ça serait beau que Saint-Etienne gagne malgré tous ses problèmes. Mais après, comme oui, Pell, il a le droit de demander. Après, il y a des règles. La LFP, ils ont établi quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis des erreurs précédemment. Donc là, ils veulent jouer les matchs. Donc ils ont fait 11 joueurs. Enfin, il faut 11 joueurs qui sont malades. Et là, c'est pas le cas. Bah, malheureusement pour Saint-Etienne. Après, il faut faire comme avec les joueurs qu'ils ont. Faudra faire monter des U18, U19. Et comme c'est un derby, ils vont se donner à fond et peut-être on ne sait jamais la surprise.
Non, sinon le calendrier, on le finit pas maintenant.
C'est ça, hein, en fait.
Trouver les ressources en fait. Et surtout à Puel de trouver des stratégies
sinon,
pour contrer lui.
Il déclare forfait puis il peut se régler.
Il peut avoir 100-0,
le derby. Si ils n'ont pas de joueurs, il déclare forfait. Si
je ne crois pas. À ce niveau-là, non.
Avec la réserve ou au lieu 19, c'est l'occasion ou jamais peut-être de découvrir de nouveaux joueurs.
Ils ont des bons joueurs en plus, c'est les jeunes. Donc c'est pas grave.
Voilà, donc il faut donner l'occasion aux jeunes. À chaque fois, on parle des jeunes, et bien c'est l'occasion ou jamais.
Surtout que Lyon a le temps de reporter ce match-là.
Surtout la philosophie qu'il a commencé en faisant du ménage quand il est arrivé, il a fait émerger beaucoup de jeunes. Donc,
ce serait l'occasion.
Alors, Toto,
exactement, qui continue.
Oui, Toto, on t'écoute.
Non, bah écoute, moi, je pense que Puel, il joue sa carte comme il doit la jouer en tant qu'entraîneur. Essayer de reporter le match, c'est une des stratégies. Si ça passe, tant mieux pour lui. Mais bon, c'est vrai que ça a peu de chances de passer, étant donné, comme on l'a dit, il y a la règle des 11 joueurs et il en est à 10. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on est en plein dans le Covid et il y avait ce paramètre là et on savait qu'il interviendrait dans la saison et là on est en plein dedans. Malheureusement pour les Stéphanois. Ouais.
Les gestes barrières sont toujours là, la crise sanitaire aussi. Vous restez avec nous, le fameux sujet de l'émission de ce soir et oui, concernant nos clubs amateurs. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de R de... Eh oui, justement, de Beurre FM.
Il a oublié.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Eh oui, avec Yacine Bouali et Alison Nkunku, sans oublier Steve Vignière, Toto Bellozzo et notre Viknesh avec nous, justement. On va s'attarder sur, l'avant-dernier sujet de cette émission, sur cette dernière partie.
Time Sport. Le duel.
Le ministère des Sports a annoncé mardi que les clubs amateurs engagés en Coupe de France pouvaient, Yacine, reprendre l'entraînement cette semaine après un test PCR obligatoire pour tous les joueurs. Viknesh.
Bah, c'est une excellente nouvelle en fait. Là, ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas commettre la même bêtise que précédemment. Et du coup, ils ont autorisé le football amateur à continuer. Et c'est quelque chose de très bien. Parce qu'en fait, le foot amateur, on parle du foot parce qu'il y a le rectangle vert avec le ballon, le jeu, etc. Mais il ne faut pas oublier que le foot amateur, il n'y a pas que ça. Il y a tout un facteur à côté, comme le côté social, le fait de côtoyer des gens, de sortir de chez soi, de partager des expériences, de discuter. Il y a des histoires. Et on peut demander de l'aide avec les éducateurs qui jouent un rôle considérable auprès des jeunes.
On en a là en plus
etc.
ce soir.
Donc c'est quelque chose de très important. Les éducateurs, ils sont essentiels pour les jeunes qui jouent au foot en fait.
Mais là, je trouve je trouve que la décision, elle est assez hypocrite.
Alors, parce
que
justement, et pourquoi, Alisson?
C'est pas tous les clubs amateurs. C'est les clubs amateurs qui sont engagés en coupe.
C'est vrai.
Exactement.
Discriminatoire.
La reprise. C'est discriminatoire selon Yacine.
Ce que tu dis, Viknesh, c'est exactement l'inverse qui est en train de.
Oui, après, moi je te parle des clubs qui le font. Après, je te parle pas des clubs. Moi, je parle que des clubs qui sont
engagés. Ce qui est en train de, ce qui la décision gouvernementale est extrêmement hypocrite. Parce que justement, c'est une compétition qui génère de l'argent. Ça veut dire vous pouvez y aller, vous pouvez jouer parce que on aura retour sur investissement. Mais tous les autres là, en quartier
social.
Ou peu importe, ceux qui nous rapportent pas d'argent, on n'en a rien à faire.
Ah là, ça fait mal, Alison.
Mais c'est la vérité.
Elle a raison.
C'est vrai, je dis pas le contraire. Je dis pas
ça fait mal.
Ça fait mal à ces clubs-là, justement.
Ça fait mal au football amateur.
Ah ben bien sûr. Le coach Tolé aussi.
Là, on a sauvé. Là, on sauve les compétitions où il y a des sponsors. Voilà. Mais tout ce qui est financé par du sponsoring, la FFF se penche grandement sur le cas pour essayer de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir sauver les meubles. Et là, tu le soulignes bien, Alison, on est face à une reprise. Alors, évidemment, le spectateur on sera content que de voir la Coupe de France continuer. Évidemment. Maintenant, en ce qui concerne la justice vis-à-vis de tous les clubs qui jouent en France. Bon bah là malheureusement tout le monde pourra pas rejouer parce que tout le monde n'est pas concerné par le fait de faire vivre les sponsors de la FFF.
Voilà.
Oui, une réaction football amateur.
C'est les joueurs. C'est une bonne chose de reprendre. Après en termes de timing c'est pas top parce qu'ils vont jouer dans 10 jours. Et il y a certains clubs qui ont eu du mal pour s'entraîner, qui sont entraînés par groupe, sans contact, dû aux mesures sanitaires.
Merci, on est d'accord aussi.
Et puis là, maintenant, avec le couvre-feu à 18h, il y en a qui peuvent même plus s'entraîner.
Un peu difficile, quoi.
Il y a eu un entraîneur, je sais plus où, qui a eu la bonne idée de faire entraînement à 6h30.
Oui, matin, 6h30.
À 6h30, donc.
Carrément.
Ça donne des idées, mais après, voilà, on va avoir des matchs déséquilibrés. Là, j'ai vu qu'il y avait une équipe, je sais plus quelle équipe jouait contre que une équipe nationale qui s'est pas arrêtée, qui est toujours en compétition. Donc voilà, on va avoir des matchs déséquilibrés et ça pose problème.
Yacine, il a pas tort là.
Moi j'ai même pas envie de parler de ça. Quand tu vois tous les jeunes qui sont, ils attendent une seule chose, c'est de pouvoir se faire plaisir. Hein. On parle pas de formation, de quoi que ce soit. On parle de football, les gamins.
Oui.
Ils prennent leur sac, ils vont s'entraîner.
Et allez, sur les terrains.
Je comprends pas, on autorise la compétition pour la Coupe de France et pour le championnat. C'est à quoi la différence? On aurait pu demander le reprise du championnat avec un test PCR pour tout le monde.
Voilà, bah même dans le football,
on connaissait
les commerces non essentiels et maintenant on connaissait le football non essentiel.
Alors c'est vraiment discriminatoire. Je pense que les clubs amateurs qui ne... Là, à un moment donné, je pense qu'ils vont se poser plein de questions. Peut-être qu'ils peuvent y aller même en justice. Hein. C'est discriminatoire.
Ne pas pouvoir. Ça peut poser des problèmes, ça, c'est aussi auprès de l'effectif, des joueurs en tant qu'entraîneur.
Ouais,
justement.
Exactement.
De ne pas jouer. Il n'a pas tort.
De voir les autres jouer et ceux qui ne sont pas en Coupe de France ne pas jouer, oui, ça peut être frustrant.
Et comment on va faire? Parce qu'il y a la plupart des clubs amateurs, les gens, enfin, les gamins ou les joueurs, parce qu'il y a tous les niveaux du football amateur, les gens payent leur licence. Ils ont payé leur licence pour l'année. Ouais. Aujourd'hui, on est au mois de janvier. Ça fait 5 mois.
Ouais, ça a commencé, quoi.
Je sais qu'il y a des clubs qui ont déjà remboursé, pas totalement, mais qui ont remboursé 50%
de la licence.
C'est pas une solution. Imagine que demain, les clubs amateurs sont obligés de rembourser tout le monde pour licence. Mmh. Ils vont se retrouver avec les caisses vides.
Ouais.
Avec les caisses vides. Parce qu'on peut dire que Dini a de l'argent et tout ça. Mais la réalité des clubs amateurs, surtout les gens. Quand ils vont juste regarder un match des jeunes, on va comprendre que les caisses, elles sont vides.
Et puis cette année, c'est vrai que vu qu'il n'y aura pas de spectateurs, c'est vrai que les clubs, ils attendent aussi la billetterie, hein, l'argent de la billetterie pour...
Et encore, les quelques clubs qui ont des supporters. Là, des fois, les kermesses, des fois, il y a plein de choses qu'ils font.
L'ambiance de se retrouver
le dimanche ou le samedi après-midi.
En tout cas, pour le moment. Les Knesh, Toto. On les écoute.
Après, le côté social, c'est le côté positif que je voulais signaler. Après, oui, ils ont bien fait de souligner le côté un peu plus négatif. C'est l'argent, en fait, malgré tout. Parce que là, on parle de l'argent qu'ils pouvaient gagner par la fédération. Et il y a le manque d'argent par les clubs, en fait, comme ça a été
Non, mais la fédération est tenue de respecter ses engagements avec ses partenaires économiques.
Bien sûr, c'est ça. C'est
pour ça qu'ils prennent la décision.
Avec le Covid.
Sinon, ils remboursent.
Ils doivent sauver ce qu'ils peuvent. Et après, ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner de l'argent et pour pas en perdre, surtout. Et le problème, c'est les clubs amateurs, ceux qui sont engagés. Comme il n'y a plus de réunions possible, ils peuvent plus organiser les fêtes pour avoir de l'argent, même pour les déplacements et la billetterie qui est essentielle. Parce que souvent, quand il y a des clubs amateurs les clubs professionnels qui se déplacent, ils laissent leur part de recettes, etc., au club amateur. Et là, ça ne sera pas possible.
Je le rappelle.
Énormément de pertes.
Et il faut, surtout pour cette édition de l'équipe de France 2020-2021, Toto Bellozzo.
Écoute, moi, tu connais mon lien avec la passion du football. Finalement, si le monde de l'argent est en train de s'effondrer dans le football qu'on connaît actuellement, j'ose espérer que le football passionnel va reprendre le dessus et va continuer de vivre, parce que finalement, il y a un football dont on est capable de se suffire sans argent. Et peut-être qu'on parlera peut-être un peu moins d'oseille, même sur les terrains amateurs. Peut-être que demain, on aura un football comme j'ai connu étant jeune, avec des éducateurs qui n'étaient pas payés, des joueurs qui ne jouaient pas forcément pour devenir professionnels, mais simplement par passion. Je suis peut-être un peu bisounours et utopiste en pensant ça. Une fois que le monde du foot business s'effondrera, s'il s'effondre, en tout cas pour certains, je pense que pour certains, il s'effondrera pas. Pour le haut de, pour le haut du gratin, le haut du gratin, voilà.
Il faudra
bien, Yacine, pour tous les autres, savoir se réinventer et revenir sur les fondements du football, qui est un football populaire et axé sur la passion. Exactement.
La passion. Mais quand on voit les footballeurs professionnels qui pleurnichent pour baisser son salaire à des joueurs qui touchent 150 000 ou 200 000 euros.
Ouais.
Je parle en France.
Hein. Non,
je parle
par
ailleurs dans des championnats où les joueurs ils margent à partir de 1 million mensuel. Bah, même quand tu touches 10 000 euros, si demain tu passes ton salaire de 1 000 euros, je pense que ça va pas.
Tu pourrais terminer le mois, je pense.
Rien ne pourrait se passer à la fin du mois.
Ouais.
Par contre, le football amateur, on enlève même cette essence, l'âme du football qui est la passion. Et quand les gamins, ils vont aller par plaisir jouer au ballon, même si derrière, aujourd'hui, il y a tout ce truc-là, les enfants, ils jouent parce que les parents, ils poussent leurs enfants pour devenir professionnels, il y a tout ce truc-là, football business. Mais rien n'est permis, on s'autorise de rêver. Voilà, même si on n'est pas obligé de nous faire notre propre psychanalyse. Voilà, mais j'espère que le football va renaître de ses cendres.
Eh ben on l'espère nous aussi. La dernière rubrique de cette émission rapidement.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, ce que le basket doit au noir, le Martin Luther King Day est l'occasion de le rappeler. La NBA célébré justement hier soir le 18 janvier le Martin Luther King Day en programmant 10 rencontres à travers les États-Unis. Aucune ligue sportive ne marque autant ce jour férié. Il fallait le rappeler dans cette émission sport qu'est Tam Sport, votre quotidienne sportive du lundi au vendredi 19h, 20h. Et oui, et ça doit beaucoup justement cette fameuse ligue de basketball nord-américain doit beaucoup à sa culture afro-américaine. Pourtant jusqu'en 1950, les basketteurs noirs étaient interdits de parquer outre-Atlantique. Ça, c'était pour le petit rappel historique concernant la planète sport. Vous restez avec nous sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes avec Café des Artistes et Mourad. Un grand merci à Steve d'avoir été avec nous pour son petit passage dans l'agglomération parisienne. Mais aussi à Yacine, à Alison, notre consultante, à Toto Bellozzo et sa fameuse chronique littéraire, sans oublier notre Viknesh. Et vous aussi, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Bye bye et à demain.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.